autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Olivier Roux à la réalisation, pour nous poser d'hallucinantes questions sur le passage de la vie à la mort. À commencer par la plus étrange qui soit, qu'est-ce que mourir, au fond ? Que se passe-t-il dans le cerveau quand on passe de vie à trépas ? Pourquoi l'activité cérébrale persiste parfois ? Jusqu'où est-il possible d'être réanimé ou inversement d'être mort avec le cœur battant ? Quand ce processus devient-il irréversible ? Que nous apprennent les expériences de mort imminente ? Autant de questions bouleversantes, renouvelées par les recherches et découvertes en neurosciences, notamment celle de notre invité, le professeur Stéphane Charpier, qui en suivant en temps réel le passage de la vie à la mort dans les neurones, a récemment découvert l'onde de la réanimation qui initie le retour à la vie. Il vient de publier « La science de la résurrection », un ouvrage extraordinaire dans lequel il partage ses recherches, ses découvertes et son expérience, mais aussi celle de tous ceux, physiologistes et médecins, qui ont tenté de repousser les limites de la mort. Accrochez-vous, car nous allons croiser des docteurs Frankenstein et même des revenants autour de la question « Quelle frontière entre la vie et la mort ?» Bienvenue pour nous interroger ensemble sur ce qui nous attend.
Est-ce qu'il trouve qu'il y a une manière simple de passer de la vie à la mort ? Et est-ce que dans les différentes manières qu'on a, notamment pour les humains, de considérer différentes morts successives, est-ce qu'il place quelque part un moment décisif ou alors est-ce qu'il est plutôt d'accord avec l'idée qu'il y aurait un effacement progressif de la vie vers la mort ?
C'est la grande question posée ici par Thomas Ince, un chercheur qui s'intéresse lui aussi aux frontières du vivant et de la mort. Grande question que nous allons donc explorer avec vous, professeur Stéphane Charpier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager votre expérience, vos découvertes, vos recherches aux limites, aux frontières, sur ce processus, ce passage de la vie à la mort. Vous êtes Stéphane Charpier, professeur de neurosciences à Sorbonne Université, directeur de recherche à l'ICM, le très renommé Institut du cerveau et de la moelle épinière à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où vous avez notamment découvert avec votre équipe l'onde de la réanimation, en étudiant en temps réel le passage de la vie au trépas dans les neurones. On va y venir, car on est loin d'être au bout du voyage et de nos surprises en ce qui concerne la mort et ses limites. Mais d'abord, pour répondre à cette question soulevée par Thomas Ince, pour vous, la mort que vous avez frôlée de très près, hein, suite à un AVC en plus, on y reviendra, c'est quoi, Stéphane Charpier ? C'est un processus, c'est un instant décisif, c'est quoi ?
Alors, vous posez d'emblée une question immense, bon, qui nécessite un peu de développement, c'est déjà, vrai. Mais même d'un point de vue conceptuel. Définir la mort, je ne sais pas faire. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe entre l'état vivant, c'est l'état dans lequel nous sommes, c'est l'état dans lequel les auditeurs se trouvent en ce moment, et puis l'état de mort, c'est-à-dire quand toutes les fonctions physiologiques se sont éteintes. Et c'est vrai que pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, même symboliquement, ces deux états sont considérés comme totalement distincts et séparés par une frontière, par un événement unique qui marquerait une transition abrupte entre ces deux états. La vérité, c'est qu'il n'en est rien. Et le passage donc de l'état vivant, je préfère dire état vivant que vie, hein, le passage de l'état vivant à l'état de mort est un état progressif. Alors, d'un point de vue physiologique et en particulier d'un point de vue neurophysiologique. On y reviendra, je pense, mais cette transition s'effectue pendant plusieurs minutes. Elle peut être réversible, c'est ce qu'on a montré dans notre laboratoire.
Elle peut être réversible, mais la transition, d'accord.
Il y a beaucoup de confusion possible de parler comme ça. C'est pour ça que j'insiste sur le terme état de mort et de transition. Donc elle peut être réversible dans certaines conditions et pas dans toutes les conditions. Et ce processus, par conséquent, et ce n'est pas un événement, c'est un processus qui va se construire au cours du temps, va se construire aussi en termes d'activité électrique cérébrale. Ça, c'est un moyen qu'on a aujourd'hui, qui est très efficace, et qui permet de détecter en temps réel, et sur un phénomène continu, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau au moment de cette transition. Donc non, il n'y a pas d'événement particulier, instantané, qui fait la séparation de nature entre l'état vivant et l'état mort. Il y a un processus, et ce processus, ce n'est pas une frontière, j'insiste là-dessus, c'est un monde.
C'est un continent.
C'est un continent
inexploré
parce que
complètement.
Très peu exploré. On commence à l'explorer, on n'est pas les seuls. Hein. Je ne voudrais pas non plus prétendre qu'on est les seuls à travailler là-dessus. On commence à l'explorer chez les humains, chez l'homme, pardon. Et puis, on va aussi, nous sommes en train de l'explorer, et ça c'est un peu notre spécialité dans notre laboratoire, dans des modèles expérimentaux, qui sont des modèles animaux, bien entendu, où l'on peut avoir accès à cette transition avec certaines conditions d'expérimentation, mais qui nous permet aussi, et ça fait une grande différence avec ce qu'on peut faire chez un être humain, d'enregistrer ce qui se passe à l'intérieur des neurones au moment de cette transition. Et pour l'instant, nous sommes effectivement à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, les seuls à le faire.
À travailler sur ce qui est le plus grand mystère, hein, la plus grande inconnue, la plus grande certitude aussi de nos vies, c'est la mort. C'est vous venez de publier aux éditions Flammarion, Stéphane Charpier, un ouvrage qui devrait faire date et qu'on peut qualifier à tous les sens, hein, d'extraordinaire, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices qui êtes loin d'ici, intitulé « La science de la résurrection ». Alors c'est un titre un peu étrange pour un ouvrage absolument scientifique, qui ne parle pas de vie après la mort, ni d'au-delà, ni à proprement parler de résurrection, mais qui s'intitule tout de même « La science de la résurrection »,
oui, Stéphane alors, Charpier. Pour parler franchement, je ne vais pas me fâcher avec mon éditeur.
Mais non, surtout que c'est un livre génial.
Mais moi, je trouve que c'était une bonne idée de juxtaposer science et résurrection. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est rentré dans un nouveau paradigme, à la fois scientifique, médical et intellectuel, où justement... La science a quelque chose à dire sur la mort. Véritablement, sur ce que c'est que la mort, sur ce que c'est que d'être mort. Hein, et sur les, justement, ce qu'on disait juste avant, sur les mécanismes qui vont conduire à cette transition. Donc, symboliquement, c'est bien sûr, là, il s'agit simplement d'une transposition, en particulier, comme vous l'avez dit en introduction, du mythe de Frankenstein, de la résurrection, c'est-à-dire de revenir d'un état de mort. Mais derrière ça, c'est surtout la compréhension de ce que c'est que de passer de vie à trépas, comme vous l'avez dit, et éventuellement réciproquement, en précisant quand même...
Oui, on ne passe pas de mort à vie, mais on peut être considéré comme étant mort et pouvoir être réanimé pour revenir à la vie, c'est
exactement.
Ça.
Et ça, c'est une... Vous mettez le point sur une subtilité qui est fondamentale. C'est-à-dire que la mort, je dirais par définition, d'un point de vue ontologique, par nature, est un état irréversible. Quand on est mort, on ne peut pas redevenir vivant. Et d'ailleurs, on va en parler, je pense, après, des expériences de mort imminente. N'oublions pas que dans les expériences de mort imminente, il y a le mot « imminent ». Ça veut dire que finalement, on n'a pas atteint la mort, parce que sinon, on ne serait pas revenu de la mort et on n'aurait pas pu en témoigner. Mais on était proche de la mort. Donc c'est cette zone grise, moi j'aime bien l'appeler une sorte de quatrième, c'est une sorte de quatrième dimension qui a, entre l'état vivant et l'état mort, il y a beaucoup de choses à dire, à décrire là-dessus, et pas seulement les expériences de mort imminente, mais tous les processus neurophysiologiques qui l'accompagnent.
Autour de cette question, hein, de ces processus, plutôt que ces frontières, oui, entre la vie et la mort, qui ouvrent sur d'extraordinaires champs de recherche, on va y revenir, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans l'avenir, ou que ce soit dans le présent. Et avant d'y revenir justement, je propose d'écouter la définition de l'état de mort ou de la mort d'un autre médecin, médecin des morts comme il se qualifie lui-même, c'est le docteur Philippe Charlier, médecin légiste, anatomopathologiste, anthropologue, qui nous donnait dans ce studio, ici même, en gros, sa définition à lui de la mort.
Écoutez, en tant que médecin légiste et aussi archéo-anthropologue, et puis avec mon expérience propre, et notamment celle du vaudou béninois et haïtien...
Qui vous a beaucoup marqué.
Qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a marqué physiquement même. Je pense que la mort n'existe pas. Et que
attendez, ça c'est une info.
Non, au sens philosophique. C'est-à-dire que la mort, c'est une vision un peu atomiste. La mort fait partie de la vie, tout simplement. La mort est un changement d'état. Évidemment, on meurt, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de fantastique. Asmagorique. On meurt, bien entendu, au sens social, au sens physique, on se désagrège, mais il y a une transmission qui est celle de particules, d'énergie ou autre chose, et il y a vraiment une continuité, ce qu'on appelle la chaîne continue des vivants et des morts. Biologiquement, la mort, pour moi, n'a pas d'existence. C'est vraiment un changement d'un état à un autre, tout simplement. Et quand je vois en médecine légale comment le mort, le cadavre, est une source de vie pour des mouches, pour des scarabées, abbé, pour des araignées et pour une future vie qui va naître à partir de tout ceci, ben je me dis que c'est simplement un changement d'état de l'un à l'autre. C'est également ce qu'on enseigne dans le vaudou, qu'il soit haïtien ou béninois, c'est ce qu'on enseigne dans beaucoup d'autres religions.
Et un changement d'état, donc quoi ?
Parce qu'il est radical,
ce changement d'état.
Il est par marche d'escalier de hauteur variable, on va dire. Voilà, il y a des toutes petites marches, et puis il y a parfois une grosse marche qui est celle de la mort visible, bien entendu. Mais on a un étiolement. Dans le bouddhisme tantrique, on parle d'une extinction progressive des différentes lumières du corps. Et ça, c'est une très belle chose. Au début, ce sont quelques lumières qui s'éteignent, on ne s'en rend pas compte. Et puis à la fin, quand beaucoup de lumières finissent par s'éteindre, là, l'obscurité commence à apparaître, et c'est la mort telle qu'on la voit dans notre monde occidental.
Vous partagez cet avis du docteur Philippe Charalier, médecin légiste au départ, hein, Stéphane Charpier.
Je partage pas tout.
Mmh, mmh.
Alors déjà, le point de vue de Philippe Charalier ici est un point de vue qui est d'emblée éminemment symbolique et culturel. Et là, j'ai pas grand-chose à dire, parce que chacun a sa propre culture, a son propre ressenti par rapport à la mort, qui est éminemment subjectif. Donc là, je comprends quand il dit ça. Disons que je comprends. C'est pas que je comprends, c'est-à-dire que je peux imaginer de quoi il parle. Mmh. Quand il parle de transition progressive, je suis d'accord aussi. La distinction qu'il fait progressive avec les lumières, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Moi, à la limite, je peux comprendre ce type de représentation qui est très saisissante. Mais mon point de vue à moi, puisque c'est mon point de vue que je peux exprimer dans un tel questionnement, il est plus prosaïque. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, enfin moi en particulier, mais...
En tant que professeur en neurosciences qui travaillait sur le cerveau, la conscience et ses états transitoires entre vie et mort.
C'est plutôt de les phénomènes neurophysiologiques sous-jacents. Alors évidemment... Juste pour revenir sur quelque chose qu'il a dit qui est très pertinent, il a dit on ne sera jamais mort d'une certaine manière. Enfin, je pense qu'il dit quelque chose... Oui, c'est vrai, mais déjà, on ne sera jamais mort vis-à-vis de soi-même. Puisque, essayons d'imaginer notre mort, par exemple. Notre état mort, c'est juste impossible.
Et on ne sera plus là pour le...
Là, déjà, on ne pourra pas avoir l'expérience de sa propre mort, puisqu'on ne sera plus capable de réaliser une expérience.
Ouais.
Donc déjà, ça... Donc on peut pas... Et le fait de même de l'imaginer, d'imaginer sa mort, c'est déjà la volonté d'imaginer le néant. Mais imaginer le néant par l'imagination... Ça démontre qu'on utilise l'imagination et ipso facto, ça détruit l'idée même de néant qui est associée à la mort. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on n'est jamais mort. La persistance des petites lumières, c'est ça que j'ai entendu. Ça, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. C'est
comme
très
si
joli.
Ça s'éteignait progressivement, comme si ça s'éteignait.
Ça
si
s'éteint progressivement. Mais moi, au lieu de parler de petites lumières, j'ai plus envie de parler de microvolts par milliseconde.
Mais alors justement, expliquez-nous ça, parce que vous étudiez donc le cerveau, vous avez mis en évidence, on a mis en évidence une onde de la mort, et vous avez mis en évidence une onde de la réanimation. C'est très clairement expliqué dans votre ouvrage, Stéphane Charpier. Alors allez-y, qu'est-ce que vous voyez dans le cerveau ? Qu'est-ce que c'est que ces ondes ?
Pour comprendre l'onde de la mort, il faut déjà comprendre ce qui se passe normalement dans un cerveau. Donc je vais vous prendre comme cobaye, Caroline, ça ne vous dérange pas ?
On verra bien. Hein.
Donc imaginons que je puisse déposer, délicatement bien sûr, une électrode sur votre cerveau en ce moment.
Ok, pendant que là je suis à l'antenne.
Voilà, donc là je vous vois et j'ai tous les indices du fait que vous êtes attentive, consciente, vous avez l'air d'être intéressée par ce qui se passe, l'ambiance générale. Et puis je vais enregistrer une activité électrique qui est très particulière, qui est de petite amplitude, qui fluctue beaucoup. D'accord ? Et cette activité qui fluctue beaucoup et qui est plutôt avec des fréquences élevées, elle reflète votre état de vigilance et votre état de conscience, et elle est due, en fait, et c'est là que c'est important pour bien comprendre l'onde de la mort, elle est due à l'activité des neurones et surtout à l'activité des synapses. D'accord ? Donc ces synapses sont actives dans votre cerveau, ça génère des courants électriques et ça génère ces ondes que j'enregistre à la surface de votre cerveau. Supposons maintenant, mais je ne vais pas...
Je ne vais plus
vous prendre comme exemple.
Mais si, c'est pas grave.
Mais que, voilà, que dans une situation, le cœur s'arrête de battre,
voilà,
on arrête de respirer.
Je fasse une attaque, là.
Bon, supposons.
Oui.
Qu'est-ce que je vais voir, en fait ? Je vais voir un électroencéphalogramme, puisque c'est ça que je fais quand je mesure l'activité électrique du cerveau en surface. Et ces ondes électroencéphalographiques, par conséquent, elles vont changer de forme. Elles vont d'abord s'accélérer. On pourra peut-être en reparler quand on va parler des expériences de mort imminente. Elles vont se ralentir et puis votre tracé électrique cérébral va devenir totalement plat. Bon. À partir de là, ce qui se passe, c'est que vos neurones et vos connexions synaptiques ne fonctionnent plus. Tout s'est arrêté, tout s'est figé.
Et puis, vous ne percevez plus aucune activité. Enfin, il y a un moment où
il n'y a plus d'activité. C'est ce qu'on appelle en neurophysiologie un état isoélectrique. On a beaucoup travaillé dans le laboratoire sur cet état isoélectrique, mais pas dans le cas de la mort, mais dans le cas de coma très profond. Mais on peut peut-être en parler par ailleurs, mais pour l'instant, parlons du cas de cet état isoélectrique qui pourrait conduire à la mort. Mais si j'attends encore un peu, et si l'arrêt cardiaque n'est pas. Enfin, si l'arrêt cardiaque perdure trop longtemps, je vais voir apparaître une onde en surface. Ça, c'est l'onde de la mort. C'est une grande onde. Et cette onde, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les neurones en dessous, sous l'électrode que j'ai posée sur votre cerveau, eh ben, ces neurones ont perdu la capacité d'établir un certain potentiel électrique. Et ces neurones vont plus ou moins collectivement modifier leur potentiel électrique, générant ainsi dans le cerveau un courant. Et c'est ce courant que je vais enregistrer en surface. Et ce courant que j'enregistre en surface, ça reflète le fait que vos neurones n'ont plus accès à de l'oxygène. Ils n'ont plus accès pour fabriquer une molécule qu'on appelle l'ATP, peu importe, c'est un peu compliqué. Et en perdant cette capacité métabolique, vos neurones vont perdre leur potentiel électrique normal, générer un courant dans votre cerveau et produire cette onde. Et cette onde, en fait, elle marque le début du processus de la mort.
C'est pas un marqueur de la mort. Cette onde, c'est le début de l'affolement généralisé ou de.
Exactement, Mais les auteurs qui ont décrit ça en premier l'ont appelé onde de la mort parce qu'ils avaient, je veux dire, des choses un peu dures, un peu crues, mais ils avaient décapité des animaux pour pouvoir l'enregistrer. Et donc, si on décapite un animal et qu'on enregistre l'onde de la mort, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de plan B. C'est pas possible. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les animaux en situation de pouvoir récupérer, justement, comme ça se passe naturellement au cours d'une réanimation cardio-respiratoire. Donc, on a obtenu cette onde de la mort. Et puis, après, on a laissé courir. Et puis, on a réanimé l'animal. Et là, aux surprises, et ça, franchement, on ne s'y attendait pas. Franchement, on ne s'y attendait pas dans le laboratoire. Ça a été une sorte de révélation. Mais il n'y a rien de mystique là-dedans. Hein. On a vu apparaître une autre onde, qui est à peu près la même forme, mais qui est un peu plus petite. Et cette onde, en fait, elle marque juste le processus inverse de l'onde de la mort. C'est-à-dire
De la réanimation.
C'est l'onde de la réanimation. Et cette onde de la réanimation, elle marque le moment où les neurones qui avaient perdu ce potentiel électrique qu'ils avaient, ben, ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer progressivement. Et là, les neurones recommencent à fonctionner. Et là, les synapses recommencent à fonctionner. Et puis, progressivement, les activités du cerveau, du cortex d'abord, parce que c'est ça qu'on enregistre en premier, les activités du cortex vont reprendre progressivement et on va voir réapparaître, donc dans le cas d'une réanimation, les ondes électriques cérébrales que j'ai décrites au début qui sont celles de la conscience et de la présence.
Extrêmement troublant, parce que cette onde de la réanimation veut dire aussi qu'effectivement, il n'y a pas de marqueur de la mort, que c'est réversible, enfin que beaucoup de choses sont réversibles. Vous en êtes, alors vous êtes professeur, médecin, etc., mais vous-même...
Je ne suis pas médecin, je précise ça, je ne suis pas médecin.
Ok, vous êtes professeur en neurosciences. Oui. Hein. Mais en revanche, vous avez frôlé la mort de très près, puisque vous avez été victime d'un AVC. Ouais. Et que vous avez vous-même, c'est le premier chapitre de cet ouvrage, était dans l'ombre de la mort, vous en êtes revenu en pleine forme, donc vous avez dû avoir dans votre cerveau aussi, je vais vous laisser respirer là-dessus, cette onde de la réanimation.
Non, alors je n'ai, sans rentrer dans les détails cliniques de mon accident vasculaire cérébral, je n'ai pas fait l'expérience d'une onde de la mort, mais j'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle un phénomène ischémique, qui est dû au fait qu'une de mes artères de mon cerveau s'est bouchée pendant un certain instant, et puis une petite artère s'est bouchée un peu plus loin au niveau de mon cortex cérébral, et donc j'ai fait l'expérience de cette ischémie cérébrale. Mais je n'ai pas vécu une onde de la mort. Mais si le processus que je viens de décrire s'était aggravé, effectivement, à ce moment-là, mon cerveau n'aurait plus été capable de recevoir du sang oxygéné. Et effectivement, dans ce cas-là, si le cerveau est privé d'oxygène, l'onde de la mort va apparaître.
Donc heureusement, votre cerveau n'a pas été privé d'oxygène. Vous racontez cette expérience fondatrice, terrible, qui vous a aussi encouragé, au-delà de vos recherches, à écrire cet ouvrage qui est beaucoup plus large que ça. Vous citez dans cet ouvrage un morceau de musique magnifique, mais qui est pour vous désormais symbolique, enfin symbole de la mort, de votre mort. On a hésité un peu, mais on vous le passe tout de même, parce qu'il est très beau. Entre les deux oreilles, allez respirer un bon coup, c'est une suite pour orchestre de Bach. deuxième mouvement de l'ouverture numéro 3 en ré majeur de Bach. Je vous laisse reprendre un peu vos esprits, Stéphane Charpie. Vous êtes professeur en neurosciences. Mais si on passe ce morceau, c'est parce que pour vous, c'est exactement... ça fait référence à la mort et à votre mort. C'est ce que vous avez... Ce que vous écoutiez au moment de votre AVC. Je suis désolée de vous...
Non, mais je...
Voilà, mais en même temps, ça sert le propos, puisque c'est aussi le premier chapitre de cet ouvrage.
Je l'ai écrit, donc je pouvais m'attendre à ce qu'on m'en parle.
Voilà.
C'est tout à fait naturel. C'est associé à cet instant, mais rétrospectivement, ça crée sur moi plutôt une sorte de vertige métaphysique.
D'accord.
Sur l'existence. Donc c'est un peu indicible, je voudrais pas paraître pédant, mais c'est plus quelque chose de l'ordre du mélange de du sentiment et des constructions intellectuelles qu'on peut faire par rapport à la mort. Donc tout se mélange pour moi avec cette musique, puisque effectivement je l'ai entendu peu de temps avant de faire mon accident, dans une ambiance particulière aussi. Voilà, donc j'ai le sentiment a posteriori qu'au moment où j'entendais cette musique, quand je l'ai entendue, Je pressentais l'ombre de la mort, comme c'est écrit dans le livre. Donc maintenant, cette musique, pour moi, elle est associée
et c'est ce qui est
à ça.
Très étonnant dans ce livre. C'est aussi ce qui en fait sa force, c'est que c'est un... Comment dire, c'est pas un mélange, mais il y a plein de niveaux de lecture. Il y a celui de votre accident à vous, il y a celui de votre recherche depuis toujours sur le cerveau, sur la conscience, cet état transitoire de la mort. Et puis vous remontez aussi le temps sur tous ceux qui ont cherché à repousser les limites de la mort. Vous nous faites partager dans cet ouvrage, donc, qui s'intitule « Et c'est pas à tort la science de la résurrection », d'étranges histoires de résurrection, plutôt de réanimation. Une des premières, une des plus frappantes en tout cas, c'est celle de Anne Green,
que
j'ai découverte grâce à vous, en 1650. Une pendue revenue à la vie qui a vraiment marqué l'histoire de la médecine. Racontez-nous cette histoire.
Ouais, c'est une histoire absolument... incroyable, puisqu'elle mélange à la fois le destin de cette jeune femme, ce destin terrible de cette jeune femme qui avait été accusée à tort d'avoir tué son enfant, et puis le destin de quelqu'un d'autre, d'un immense neuroanatomiste, Thomas Willis, un des fondateurs de la neuroanatomie humaine déjà, et de la neurophysiologie humaine aussi, et même de la neurologie. C'est même lui qui a inventé le mot neurologie. Oui, donc Anne Green, là on est à Oxford, on est au milieu du XVIIe siècle. Anne Green est servante chez un hobereau de cette région, de cette province d'Angleterre. Elle est séduite, elle tombe enceinte. Elle fait, c'est ce que j'ai conclu des rapports de l'époque, elle fait véritablement un déni de grossesse, un accouchement spontané, puis on va découvrir le corps de cet enfant mort-né et on va l'accuser d'avoir avorté volontairement et d'avoir donc tué cet enfant.
Et elle va donc être condamnée
elle
à la pendaison.
Elle va être condamnée à la pendaison en hiver, elle va être pendue. Et sa pendaison, d'ailleurs, est quelque chose d'assez abominable, puisque on est mal pendu, quand on est plutôt étranglé, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ses amis, sa famille sont venus au moment de sa pendaison, ont tiré sur ses jambes.
L'aider à mourir.
Pour l'aider à mourir au plus vite. Bon. Voilà, et donc ça a duré un certain temps. Finalement, elle a été considérée comme morte, donc dépendue, et on a fait ce qui commençait à se faire à l'époque, c'est-à-dire on donnait les corps des suppliciés aux médecins, aux anatomistes, dans la région où ils avaient été exécutés, pour pouvoir faire des dissections, pour pouvoir apprendre et faire des démonstrations d'anatomie. Donc Anne Green s'est retrouvée comme ça dans les mains de Thomas Willis et d'un autre neuroanatomiste. Et puis, ils se sont rendus compte, c'est pas eux qui se sont rendus compte, c'est quelqu'un qui leur a aidé à transporter le corps dans une pièce, qu'il y avait encore des petits mouvements chez elle, imperceptibles, très petit mouvement de la cage thoracique. Et là, Thomas Willis, le futur grand Thomas Willis, le futur grand anatomiste Thomas Willis, décide de tenter une réanimation pour la première fois de cet ordre-là. C'est-à-dire de permettre à cette jeune femme de retrouver pleinement la vie, puisqu'elle n'était pas morte par conséquent, elle avait été étranglée, son cerveau avait vécu pendant un certain temps une hypoxie, elle avait été privée d'oxygène, on l'avait crue morte, mais elle n'était pas morte. Et Thomas Willis va mettre en œuvre une sorte de procédure de réanimation un peu improvisée, mais qui va s'avérer extrêmement...
La première du genre.
La première du genre, véritablement, et qui va être efficace, puisque Anne Green, au bout de quelques jours, va parfaitement récupérer. Les gens d'Oxford vont même la soutenir, parce que si elle a vécu, parce qu'à l'époque, bien sûr, on considérait que c'était une véritable résurrection. Donc, si elle avait vécu une résurrection...
Elle avait le droit de revivre.
Elle avait le droit de revivre. Il était hors de question de la condamner à nouveau. D'accord ? Et c'était même aussi peut-être la démonstration qu'elle avait été accusée à tort.
Ah, si elle avait réussi à, à revivre ou à survivre.
Donc c'est pas devenu une sainte pour autant, mais enfin, c'était quand même l'indice qu'éventuellement elle avait été accusée. D'ailleurs, le père du garçon qui l'avait mis enceinte est mort d'une crise cardiaque. Et on avait conclu que c'était même une punition divine à cause du fait que cette famille-là avait, avait poussé Anne-Green dans cette situation.
Mais cette histoire d'Anne-Green, c'est vraiment les débuts de la réanimation. Ça montre aussi des choses effrayantes, hein, qu'on a pu enterrer des gens vivants. Et ça montre aussi qu'on peut revenir de très, très, très loin. Et ça montre aussi que c'est grâce à ces médecins, à ces physiologiques, donc vous racontez toute une série de médecins et de physiologistes géniaux qui ont vraiment réanimé, étaient au début de la réanimation. Et il y a aussi en filigrane toute cette formidable épopée scientifique aux frontières de la mort, la figure du docteur Frankenstein, imaginée par Marie Shelley, qui est très présent dans cet ouvrage, décidément, à nul autre pareil. Stéphane Charpier, les deux vous hantent et nous hantent à la lecture de votre livre, hein, Docteur Frankenstein et Marie Shelley. Allez, avant de vous laisser nous expliquer pourquoi ils vous hantent et ils nous hantent, je propose d'écouter un petit rappel des faits sur grand écran en version un peu gore et sonore. C'est le Super. Mix Aurore, signé Victor Hull sur RFI.
Super.
J'ai découvert le secret de la vie. Il sera parfait. Il sera magnifique. Il n'existe pas, il n'est pas né. Ce n'est qu'une masse inerte. Mais nous connaissons le moyen de lui insuffler la vie.
Il est vivant !
Frankenstein t'a donné la vie éternelle, il t'a offert un pouvoir que le temps ne pourra jamais détruire.
C'est grand, Frankenstein, pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant.
Mais je croyais qu'on l'avait détruit.
Non, on ne peut pas le détruire. Il est immortel.
L'immortalité de Frankenstein. Ouais. Pourquoi Frankenstein et le docteur Frankenstein et Marie Shelley vous fascinent tant, Stéphane Charpier?
Il y a beaucoup de raisons.
Et oui.
Il y a d'abord il y a une raison qui est liée au fait que au début des années 2000, je devais préparer une conférence lors d'une école d'été. Et j'avais décidé dans cette conférence de parler un peu de l'histoire de ma science, l'histoire de la physiologie, de l'électrophysiologie, c'est-à-dire des propriétés électriques du cerveau. Et là, j'étais tombé sur un article d'un historien italien qui disait que Galvani, on va peut-être en reparler, que Galvani, donc l'inventeur du galvanisme et des stimulations électriques, avait un neveu qui s'appelait Giovanni Aldini, et que ce neveu avait réalisé une expérience de réanimation tout à fait extraordinaire à Londres en 1803, et qu'en faisant cette expérience de réanimer un cadavre en public, il avait très certainement été le modèle pour Marie Shelley, pour son personnage du docteur Frankenstein.
Alors, un petit mot sur cette galvanisation.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, la galvanisation?
Alors, les stimulations galvaniques, je préfère ce terme-là, en fait. Les stimulations galvaniques, ça consiste... Là, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Donc, on est à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, il y a de plus en plus d'indices qui montrent que l'on peut mettre en action, mettre en mouvement des muscles en faisant des stimulations électriques. Donc, Galvani s'en était rendu compte de manière un peu accidentelle. Et puis, il a développé un ensemble de procédures qui consistent à stimuler des nerfs et des muscles avec ce qu'on appelle un couple de métaux. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, on a deux métaux différents. Et si on les positionne sur de la matière vivante, ça va créer un courant dans cette matière vivante. Et ce courant va déclencher soit des influx nerveux dans les nerfs, soit directement la contraction des muscles. Donc ça permettait, et c'est ça l'intérêt de la science de Galvani, ça permet à la fois d'essayer de commencer à comprendre quels sont les mécanismes physiologiques du mouvement et des sensations, et ça permet aussi de tester, par exemple, après la mort, c'est ce qui a été fait énormément pendant cette période-là. Après, il y a une mode dans toute l'Europe qui a été de faire des stimulations galvaniques sur des cadavres ou des fragments de cadavres.
Et d'arriver à les faire bouger.
Et d'arriver à les faire bouger de manière des fois tout à fait spectaculaire. Essayer de voir quel était finalement l'organe, c'était une des questions qui hantait Xavier Bichat, quel était le dernier organe qui reste vivant après la mort. Ce dernier organe, ça serait peut-être celui qui réagirait en dernier aux stimulations galvaniques. Donc Galvani a ouvert la porte non seulement à cet imaginaire extraordinaire qui a inspiré Marie Shelley, mais il a aussi ouvert la porte à une science fabuleuse, qui est la science qui me passionne, c'est ce que je fais depuis 30 ans, qui est l'électrophysiologie, c'est-à-dire l'étude des propriétés électriques du système nerveux et éventuellement son contrôle par des stimulations électriques. Mais tout ça, le galvanisme.
Voilà.
C'est tout
ça. Et ça a donc inspiré Marie Shelley pour cette figure de Frankenstein, sur laquelle vous vous arrêtez longuement parce que vous y avez aussi beaucoup pensé en étant vous-même entre la vie et la mort, parce qu'aussi certaines recherches aujourd'hui pourraient nous y renvoyer. On n'a pas encore réussi à faire un Frankenstein, à faire ce que voulait faire le docteur Frankenstein, c'est-à-dire à créer un être vivant. Et pour le moment, on n'en est pas près d'y arriver. Rassurez-nous.
Non, alors déjà, il y a une distance. Vous avez dit créer un être vivant.
Oui.
Je pense que Marie Shelley, si on lit attentivement le roman, elle ne veut pas créer un... Enfin, Marie Shelley, le personnage de Marie Shelley, le docteur, ne veut pas créer un être vivant. Il veut réinsuffler...
Ah, c'est ça, réinsuffler
l'étincelle de vie dans un corps mort. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ni symboliquement, ni physiologiquement. Donc l'idée, c'est non, on ne peut pas réanimer, c'est ça que c'est votre question, on ne peut pas réanimer par des stimulations électriques, mais aujourd'hui, des docteurs Frankenstein, il y en a beaucoup qui se présentent comme des docteurs Frankenstein. Bon, il y a un chirurgien italien, on va peut-être essayer, enfin, on parlera peut-être, je ne sais pas, Sergio Canavero, qui lui-même se décrit comme un docteur, puisque lui, il prétend pouvoir reconstituer un corps humain à partir d'une tête coupée et d'un corps, et de vivant les deux, et de réaliser cette chirurgie qui, pour l'instant, est impossible et qui se restera probablement pendant très longtemps, de réassembler la tête de quelqu'un qu'on a décapité, mais dont on a maintenu un certain temps la tête vivante en dehors du corps, à un corps issu de quelqu'un qui est en état de mort cérébrale, dont le cerveau ne fonctionne plus, réassembler les deux et de créer un nouvel individu. Si on se réfère juste à ce que je viens de dire là, ça ressemble furieusement à l'œuvre du docteur Frankenstein. Mais pour l'instant, le docteur Frankenstein, il faut plutôt l'imaginer comme quelqu'un qui essaie de comprendre. Ce qui était le but du docteur Frankenstein dans le roman de Marie Shelley aussi. Il veut comprendre ce qui se passe.
Voilà. Et là, dans ce cas-là,
c'est une part de l'œuvre de Marie Shelley et de l'œuvre du docteur Frankenstein qui est peu décrit, y compris dans les films. C'est d'abord de comprendre ce qui se passe au moment du dépérissement.
Et là, c'est intéressant. Et là, ça vous intéresse. Alors, pour comprendre ce qui se passe avant le dépérissement, en tout cas dans ce passage, dans ce continuum, puisqu'on a bien compris qu'au fond, entre l'état vivant et l'état mort, il y a un continuum, et vous cherchez finalement à établir un marqueur, eh bien, il y a, vous y consacrez d'ailleurs un chapitre, toutes ces expériences de mort imminente, donc ces récits troublants, souvent très similaires, même s'ils diffèrent d'une culture à l'autre, que nous racontent les revenants des expériences de mort imminente. On peut parler de revenants, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et oui, là encore, il va falloir en discuter ensemble. Je propose d'abord un nouvel éclairage, c'est celui du docteur Sylvie Cafardi. Elle est gériatre dans un hôpital du sud de la France. Sylvie Cafardi vient de publier Expérience de mort imminente aux éditions Humaine Science. Et c'est sous-titré Témoignage d'un médecin gériatre. C'est le recueil de témoignages, des témoignages qu'elle a recueillis auprès de personnes qui ont frôlé la mort au cours d'accidents ou d'arrêts cardiaques notamment, et qui ont partagé avec elle leur expérience de mort imminente. On entend bien le mot imminente. Oui. C'est saisissant. On l'écoute au micro de notre reporter Charlie Dupiau.
Un des exemples les plus marquants, justement, c'est un monsieur que j'ai rencontré qui était photographe quand ça lui est arrivé, tout jeune. Il s'est électrocuté, une machine pour développer des films photographiques, et il a attrapé une pédale. La pédale n'était pas isolée, quoi. Et c'est lui qui a pris les 380 volts. Il a dit « j'étais projeté à l'autre bout de la pièce », il a tout renversé. Et dans ce quart de seconde où il a traversé la pièce, il a vécu une expérience extrêmement profonde où, pour lui, il est toujours dans la pièce de travail et il se retrouve dans le noir. Il dit « ça s'est fermé comme un diaphragme d'appareil photo et je me suis retrouvée dans le noir et j'ai vu mon grand-père ». Son grand-père était mort. Il a compris que lui-même, il ne devait pas être bien. Il a fait ce que beaucoup d'expérienceurs racontent, il a passé sa vie en revue, mais en étant à la place de ceux qu'il avait rencontré au cours de sa vie. Il m'a dit, c'était comme si j'avais fait, tout au long de ma vie, j'avais fait un dessin les yeux fermés, et que là, maintenant, devant cette grande lumière, je retirais le bandeau. La phénoménologie des expériences de mort imminente, alors on va le dire, comme dans tout syndrome, c'est une association de symptômes, et tout le monde ne présente pas les mêmes symptômes. Donc ces différentes étapes que tous ne vivent pas, on est bien d'accord. La sensation de se sentir mourir, bon, ou en tout cas d'en avoir conscience à un moment donné, comme m'a dit Gégé d'ailleurs.
Un aide-soignant que vous avez rencontré.
Voilà, l'aide-soignant, il m'a dit, c'est fou ça, on se sent bien, on sait qu'on va mourir et on se sent bien. Et ça, c'est une des phrases que j'ai très souvent entendues, qui revient souvent, c'est « si c'est ça la mort, alors il n'y a vraiment pas de quoi en avoir peur ». Lui, il s'est intoxiqué au CO, du monoxyde de carbone, dans le fond d'une cuve qui devait aller repeindre. Il a fallu le réanimer en lui faisant un massage cardiaque quand même. Il a été sauvé in extremis.
Et tout ça, toute cette expérience-là, elle peut durer quelques secondes?
Ah ben le temps ne compte pas, c'est ça qu'ils nous disent. Le temps, ils ne peuvent plus le mesurer, le temps ne s'écoule plus.
Mais est-ce qu'ils se ressentent dans leur corps blessés ou...
Non, non. Ça, c'est clair. Lorsqu'ils vivent cette expérience, ils ne sentent plus leur corps. Et même, ils se voient. Leur corps, ils le voient loin. Et ils ne ressentent plus aucune douleur. Et c'est assez instantané. Un peu comme un interrupteur. Ils souffrent, ils étouffent. Et puis tout à coup, ah, le bien-être total. Toutes les souffrances ont disparu. Ils se sentent bien. Mais surtout, inversement, quand ils reviennent, pof, toutes les douleurs reviennent immédiatement dans leur intégralité. Il n'y a pas de demi-mesure.
Alors, vous citez le cas de Madame D., qui, elle, a eu une hémorragie au bout de 5 mois de grossesse et qui a été hospitalisée en urgence et qui a vécu une expérience de mort imminente.
Elle se souvient de très peu de choses. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle, comme elle dit, elle a senti son cœur et ses poumons s'arrêter. Elle est restée consciente pendant tout ce temps-là. Et en fait, elle s'est sentie mourir, oui, on peut le dire. Elle a dit « J'ai senti quand mon cœur s'est arrêté de battre ». Il n'y avait plus cette résonance dans le corps, du cœur et des poumons. Quand eux aussi, ils se sont arrêtés de respirer, j'ai senti qu'il ne se passait plus rien. Elle a entendu le scope qui se mettait à sonner, le petit bip qui s'arrêtait, le scope qui sonnait. Elle a vu les aides-soignants et les médecins qui étaient en train de faire la visite revenir à toute vitesse. Elle les voyait, elle les entendait, mais elle ne pouvait plus, son corps ne répondait plus du tout. En étant consciente jusqu'au bout, elle a fait un arrêt cardio-respiratoire, oui.
Comment pouvez-vous réagir, Stéphane Charpie, à ce qu'on vient d'entendre, donc à ces témoignages recueillis par cette médecin gériatre, Sylvie Cafardi, qui publie « Expérience de mort imminente » aux éditions Humaine Science.
Bon, ben, je pense qu'elle décrit très bien ces expériences qui sont... Et c'est vrai, elles sont à la fois extrêmement variées. En fait, c'est marrant parce qu'elles sont toujours très personnelles, mais il y a des profils généraux qui reviennent. Et elle l'a bien dit, c'est-à-dire il y a le sentiment, par exemple, de sentir bien, un sentiment de plénitude, de paix, de tranquillité, vraiment très 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 intense. Le sentiment aussi que le temps s'arrête, que le temps ne s'écoule plus de la même manière. Et puis il y a ces expériences extra-corporelles qui sont décrites. Alors tout ce que je viens de dire là, en fait, je dis pas qu'on peut les expliquer, car aujourd'hui il n'y a pas d'explication véritablement, je dirais scientifique, mais je dirais plutôt neurologique ou neurophysiologique de ces expériences. Mais on peut imaginer des mécanismes qui pourraient les expliquer. C'est-à-dire, on peut faire l'analogie, par exemple, avec certains types de ces expériences que l'on peut avoir en dehors des expériences de mort imminente et dont on connaît les mécanismes. Je vais prendre un exemple,
oui,
qui est celui des expériences extracorporelles qui sont assez fréquentes. Bon.
La raison de sortir de
voilà,
son corps.
Voilà. Alors, chez les tenants des théories spiritualistes et un peu fantastiques, ces expériences-là, elles constituent une sorte de démonstration absolue que l'âme quitte le corps et que la personne se voit avec un point de vue extériorisé et qu'en fait, c'est l'âme en fait, qui est en train
qui
de voir
le
ce qui
corps.
Se passe. Bon. Ben, le fait est que ces expériences extracorporelles, elles peuvent survenir dans d'autres situations et elles peuvent même être provoquées de manière artificielle. Il y avait une publication qui n'est pas très ancienne dans la revue Nature, je pense que c'est dans la revue Nature, où certains sujets, on a pu stimuler certaines régions du cerveau au niveau d'une région qu'on appelle le gyrus angulaire. C'est une région qui fait communiquer différentes aires corticales qui permettent justement cette représentation cohérente de son propre corps dans l'espace.
Comme si on le voyait de l'extérieur.
Alors, c'est ça. Et si on stimule cette région-là, on va désorganiser les structures corticales qui réalisent ce que nous, on est en train de faire en ce moment-là, on se regarde, mais on a une vision, on a une représentation corporelle qui est cohérente vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre environnement au sein de cette pièce. Mais si on stimule cette région, on a ce sentiment de décorporation, c'est-à-dire ce point de vue extériorisé de sa personne physique, qui est souvent d'ailleurs associé à une déformation de son propre corps. Donc,
un sentiment qu'on peut avoir parfois quand on fait une sieste profonde aussi, où on se sent...
Ah ça, j'ai jamais ressenti ça pendant la sieste.
À l'extérieur, ça peut arriver de se sentir un peu... À moi,
peut-être.
Ça m'est arrivé.
D'accord,
de
super.
Sentir un peu ailleurs. Oui, c'est ça.
Non, c'est bien, mais ça peut
mais
aussi...
Mais c'est le même genre de, non,
mais ça,
de
c'est
phénomène.
Plutôt, voilà, ça c'est plutôt... dans le cas d'une sieste, c'est plutôt positif, mais ça peut arriver, par exemple, dans le cas d'une migraine ou même au cours de certaines crises d'épilepsie, ça peut aussi arriver. Alors, l'idée qu'on peut formuler, là, il n'y a pas de démonstration, enfin, on peut parler du problème de démonstration par rapport à ça, c'est qu'au moment, par exemple, d'un arrêt cardiaque, il va y avoir dans cette région du cerveau une période transitoire d'anoxie, c'est-à-dire cette région va être privée d'oxygène pendant un certain temps. On peut imaginer que cette privation d'oxygène va faire à peu près le même effet que les stimulations électriques que j'ai décrites tout à l'heure. Donc ça va désorganiser l'activité des neurones. Les neurones ne vont plus fonctionner de la même manière, notamment pendant la période de retour vers l'éveil. Et à ce moment-là, on peut avoir cette sensation-là qui peut être provoquée par un mécanisme neurophysiologique qu'on peut expliquer, même si, et c'est important de le préciser, voilà, par rapport à ce qui a été dit précédemment, même si on n'a pas de démonstration directe, j'insiste là-dessus, de ce qui se passe dans le cerveau au moment de ces expériences.
Oui, c'est quelqu'un qui le raconte, rien. On ne sait pas. Hein. C'est quelqu'un qui raconte son expérience, sauf que tous ces récits sont très proches, sont de plus en
ils
plus
sont
nombreux,
proches,
sont de plus en plus étudiés hein, par les chercheurs comme vous, parce qu'ils ont été longtemps négligés, or ils sont vraiment étudiés aujourd'hui,
oui.
Et vous en citez plusieurs, il reste quand même, là vous nous expliquez, hein, j'entends bien ce que vous dites et on trouvera peut-être des explications, il reste quand même des mystères hein, sur lesquels vous reconnaissez
beaucoup.
Vous-même que
beaucoup.
Ce sont des mystères, des énigmes, énormément.
Ouais, bien sûr.
Il y a notamment le cas de ce petit garçon que vous citez qui frôle vraiment la mort et qui croit enfin, qui rencontre une dame qui est en fait sa grand-mère morte qu'il n'a jamais connue,
voilà.
Et c'est sa mère qui s'en rend compte à son retour. Là, on se dit mais ouais. Quelle explication peut-on trouver ? Enfin, voilà.
Alors là, on est parce que c'est un des problèmes. Je sais que beaucoup de personnes vont pas être d'accord avec moi, mais le problème des expériences de mort imminente. Tout d'abord, il faut bien comprendre que si elles sont relatées, c'est que la personne est revenue à un état de conscience
et qu'elle n'est pas morte.
On est d'accord. Donc, elle n'est pas morte. Deuxièmement, ce sont des expériences qui vont se nourrir de différentes informations. Elles sont extrêmement subjectives. D'accord ? Donc, je ne veux pas mettre en question le témoignage. Vous avez dit au début de la présentation que c'était dépendant des cultures.
Oui, oui.
En fait, il y a certains profils de sens qui ne sont pas dépendants des cultures. Et moi, ça me fait plutôt penser l'inverse. Ça me fait plutôt penser que, finalement... La plupart des expériences de mort imminente sont vraiment des phénomènes neurophysiologiques, indépendamment de la culture, d'accord ? Indépendamment de ce qu'on a pu connaître.
D'accord, des phénomènes qui se produisent et que l'on subit et que vous cherchez à étudier, à comprendre, à mettre en lumière.
Dans sa forme, je dirais, dans ses formes classiques, les expériences de mort imminente, on pourra sûrement les expliquer. Il y a certaines expériences comme celle que vous avez racontée de ce petit garçon, il y en a énormément d'autres. Celle-là, alors là, il faut reconnaître que la science n'a plus rien à dire.
La science n'a plus rien à dire, elle peut juste écouter votre compositeur préféré.
Ah.
Et oui, Eric Clapton sur RFI.
Très bon choix.
Et bien oui, et morceau de circonstance, Tears in Heaven. Tears in Heaven, Eric Clapton sur RFI. Merci pour ce choix. Stéphane Charpier, Tears in Heaven, des pleurs jusqu'au paradis. Je ne sais pas si vous nous emmenez, vous nous emmenez pas en enfer du tout dans cet ouvrage, La science de la résurrection. Vous nous emmenez dans cette limite entre vie et mort. Vous nous ouvrez un monde insensé. Qu'est-ce que vous en retirez-vous de ces recherches? Est-ce que vous en espérez? Vous avez quoi? Vous avez une minute pour conclure là-dessus. C'est insensé. On vous réinvitera parce qu'on n'a pas fini de parler.
Alors, en une minute, c'est quand même un peu difficile, mais c'est surtout un début, je pense. Je pense que c'est vraiment un début, et c'est vrai pour toutes les recherches. C'est-à-dire, quand on commence à faire une recherche sur un sujet comme ça, notamment, et sur un sujet nouveau, même un sujet nouveau pour notre équipe, en fait, on ouvre des portes. C'est-à-dire, on découvre un truc, on va poser de nouvelles questions, et puis on va faire de nouvelles expériences, et on va, et c'est comme ça que ça va se construire. Donc nous, pour l'instant, on continue à travailler sur nos modèles expérimentaux. Maintenant, ce qu'on aimerait, et c'est ce qu'on fait dans notre institut, c'est un institut de recherche translationnelle où justement on a les moyens de travailler avec les médecins. Et je pense, pour conclure, que c'est l'association de la recherche très fondamentale en neurophysiologie sur des modèles expérimentaux couplés à la recherche que l'on peut faire sur des patients qui peut faire avancer ce type de questions sur cette zone grise, cette quatrième dimension entre la vie et la mort.
Merci infiniment Stéphane Charpier, on a envie d'en savoir plus parce que ça Merci nous concerne
c'est,
tous.
C'est passé très vite.
Ah oui, trop vite, on va vous réinviter, ça c'est sûr. Je rappelle le titre de votre ouvrage proprement extraordinaire, La science de la résurrection à la fois, je sais pas, livre d'histoire des sciences, d'histoire de la vie, de la mort, philosophique, mais aussi livre de la conscience, du cerveau, à lire éternellement, si j'ose le jeu de mots, et à gagner bien sûr, car nous en avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices qui habitez loin d'ici. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Stéphane Charpier, vous revenez quand vous voulez, sans mauvais jeu de mots, pas de revenant, mais vous revenez quand vous voulez.
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est podcastable, difficile à dire, à volonté, avec Olivier Roux à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Nous vous donnons rendez-vous lundi autour de la question pourquoi et comment se concentrer. Tiens donc, et lâchez un peu nos écrans. Surtout, restez curieux, chers amis auditeurs, à l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du journal.